Autre radio, autre culture, bonjour. Audio People et autres radios, autre culture vous présentent les deuxièmes rencontres de la création sonore qui se sont déroulées au SAE Institute de Paris les 26 et 27 mai 2010. Bonne écoute.
Bien, je vous remercie d'être ici. Je suis Gisèle Clark, l'organisatrice de ces rencontres de la création sonore que nous faisons en partenariat avec nos amis du SAE Institute. C'est la deuxième édition. L'année dernière, nous avions accordé donc une plage de temps pour la restauration uniquement sonore, donc des enregistrements. L'arrivée de la HD nous donne envie aussi de parler du son à l'image, et donc nous avons sur place un plateau que notre ami Jean-José Vaneg, qui est notre spécialiste, un de nos docteurs Watson de la rédaction, va vous présenter lui-même.
D'accord.
J'ai rien d'autre à dire pour l'instant, je vous souhaite une très très bonne conférence et je remercie tous les gens qui ont accepté d'y participer.
Merci à tous, merci Gisèle pour cette introduction. Donc effectivement, nous vous avons invité et nous avons invité un panel d'experts. Merci de nous rejoindre. Je crois que l'après-midi va être très chaude. Il n'y a pas que la salle qui est chaude. Le sujet, je crois, est un sujet brûlant, passionnant, voire même passionnel. On risque de vivre ça ensemble, mais vivons dangereusement. Alors, je crois que déjà, juste pour planter le décor, il faut que je fasse vite parce qu'on n'a que 2 heures. Le grand responsable, je dirais, de cette idée, il est à ma gauche, c'est Denis Mercier. Et vous allez voir qu'en matière de son, on peut cultiver les paradoxes. C'est après avoir assisté à une de ces conférences, dans laquelle d'ailleurs était présent une autre personne assise parmi vous dans la salle, que m'est venue cette idée de monter une rencontre autour de la restauration sonore des œuvres cinématographiques. Bien évidemment, on est dans un contexte où l'image s'enrichit de plus en plus, notamment avec l'arrivée de la HD, et on a le sentiment dans tout ça que des fois le son est un peu le parent pauvre, alors qu'il y a quand même des œuvres cinématographiques qui étaient accompagnées d'un son de qualité et qui méritent lui aussi quelques considérations. Dès qu'on parle de restauration cinématographique, et si maintenant on regarde d'un peu plus près l'aspect son au cinéma, on peut avoir, je dirais, 2 démarches, 2 objectifs qui ne sont pas nécessairement compatibles. L'un des premiers objectifs, c'est effectivement de vouloir sauvegarder un patrimoine, et ça on le comprend, le sauvegarder tel qu'il était à l'origine, soit à des fins de recherche par la suite, etc., ou soit parce que les ayants droit souhaitent donner une nouvelle vie commerciale à un contenu cinématographique, et dans ce cas-là, les choix peuvent amener à des démarches, à des choix esthétiques qui ne sont pas nécessairement, je dirais, dans la tonalité de ce qui avait été créé à l'origine. Alors, pour discuter de tout ça, j'ai invité un certain nombre de personnes, dont une arrive juste à l'instant. Désolé, c'est pas facile à trouver le bâtiment 229. Disons, par ordre d'apparition, on commencera avec Denis Mercier et Hervé Bernard, donc, qui vient d'arriver. Et là, vraiment de façon très paradoxale, puisqu'on va vous inviter à faire un retour sur le cinéma muet. Ça peut vous paraître étrange, mais vous allez vous apercevoir que le cinéma muet n'était pas si muet que ça. Et Denis Mercier et Hervé Bernard, par leur travail, m'ont vraiment amené à une espèce de prise de conscience. Et j'espère qu'au sortir de cette présentation, vous aurez cette même démarche. Ensuite, nous avons un peu sur la gauche Léon Rousseau, donc, qui est chez LE Diapason, qui lui aussi travaille sur de la restauration sonore d'œuvres cinématographiques. Donc il vous présentera ce qu'il fait. Ensuite, nous avons Jean-Louis Ducarme, qui va nous parler de son long travail. Et là, c'est tout à fait intéressant parce que nous avons un ingénieur du son, mais qui a aussi cette qualité assez extraordinaire, c'est que c'est un musicien, et c'est un musicien dans l'âme, et cette musique, il la vit avec passion. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est assez rare de rencontrer de telles situations. Il est l'ingénieur du son qui a travaillé sur la prise de son originale et sur le mixage du film de Don Giovanni de Joseph Losey, et il est aussi le monsieur qui a été rappelé lorsqu'on a voulu restaurer l'œuvre. Ensuite, nous trouvons un peu plus à gauche Olivier Attal, donc, qui va nous présenter une technologie tout à fait originale. Quelque part, l'idée, c'est un rêve qu'on poursuit depuis des années, c'est de pouvoir démixer des sources, donc réextraire des sources d'un contenu qui a été mixé pour pouvoir le relocaliser, le retravailler, le spatialiser. Il vous dira ce qu'il fait. plus à gauche, nous avons donc Hervé Bernard qui a travaillé sur cette recherche sur le film de Jean Renoir, sur un air de Charleston. Et à ma droite, donc, nous avons Lionel Riesler, qui est ingénieur du son, qui fait pas mal de prises de son, qui produit et qui travaille aussi sur de la restauration. Alors tous ces gens-là ont des pratiques, ont des approches, ont leur façon de travailler et ils vont essayer de partager ça avec vous. L'idée, c'est d'avoir une réunion qui soit non pas unilatérale, mais la plus interactive possible. Donc n'hésitez pas à vous manifester, à poser vos questions. Profitez de ce que vous avez des personnes quand même exceptionnelles et qu'il est assez difficile de les réunir tout ensemble pour un tel panel. Je propose à Denis Mercier donc, de nous parler de ce qu'il a pu faire.
Alors effectivement, je vais vous parler d'un film muet. C'était une découverte que j'avais faite à la Cinémathèque française, un des lieux où on peut voir pas mal de films. En plus, on le voit dans les conditions du muet dans ces cas-là, alors qu'on sait que ce n'était pas les véritables conditions de l'époque. Souvent, on voit le film à une cadence supérieure. Pour un problème très simple, c'est que les images ont été tournées à 16 images par seconde et étaient projetées sur des projecteurs tripales. Dorénavant, depuis 1927, depuis l'invention du son, les images ont été tournées à 24 images par seconde. Alors, on va voir pourquoi. Et donc, les projecteurs sont bipales et on ne sait plus projeter les films tels qu'ils ont été tournés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus descendre en dessous du seuil de scintillement, c'est-à-dire que l'image passant deux fois dans la fenêtre, elles sont doublées pour pouvoir ensuite être changées. Donc on a 2 fois 24, ce qui fait 48 images par seconde, qui est au-dessus du seuil à partir du moment où on voit la suite d'images. En dessous de 40 images par seconde, on commence à détecter qu'il y a un mouvement et donc la magie du cinéma ne s'opère plus. Voilà, donc j'ai vu un certain nombre de films dans des conditions comme ça, qui sont loin d'être les conditions dans lesquelles les films ont été tournés. Mais sur le moment, j'ai un peu fait comme tout le monde, quand on voit Charlie Chaplin à la télé qui gambade et tous les gens qui bougent très vite, ça faisait un peu partie du rituel, oui. Un film ancien, c'est comme ça, ils ne savaient pas faire. Ils n'ont fait qu'inventer le cinéma, donc ils ne pouvaient pas en plus faire la bonne cadence, vous imaginez. Et puis, j'ai eu un contact avec le fils de Jean Renoir, Alain Renoir, qui m'a demandé de retrouver la musique de ce film. Parce que c'est un film sur le Charleston, pour qu'il ait un intérêt. Puisque voir des gens danser sans musique, ça paraissait un peu aberrant. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Bon, j'ai cherché la musique de celui qui avait joué, Clément Doucet, à l'époque du Bœuf sur le Toit. Je n'ai pas réussi à retrouver les musiques originales. Et en fait, c'est assez classique, puisque à l'époque, les musiques de films comme ça étaient plutôt des musiques improvisées ou alors des sommes de bouts d'opéra, d'air de l'époque, de danse. Et donc, ce n'était pas forcément une musique écrite. Donc, je n'ai pas trouvé les partitions. Donc, j'ai recherché d'autres partitions de Charleston en les essayant sur les images. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer et danser plus vite qu'à certaines cadences. Donc, j'ai fait appel à des danseurs pour leur demander de danser ce qu'on voyait à l'image. Ils me disaient, mais là, c'est trop rapide. Tu vois, quand on fait tel mouvement, on ne peut pas le faire comme ça pour des raisons purement physiologiques. Donc, on a cherché la bonne cadence de l'image et on est retombé sur le 16 images par seconde. À ce moment-là, j'ai fait faire un télécinéma et les danseurs ont pu danser comme ceux qui étaient à l'écran. Donc, tout d'un coup, on ne voyait plus des personnages gesticuler, mais des personnages danser. Ensuite, les musiciens, quand ils voient des danseurs danser, peuvent retrouver les musiques. Il suffit d'avoir les partitions. Et du coup, ça commençait à prendre forme. Et il était possible, à un moment donné, d'envisager de reproposer la projection du film en grand écran avec les musiciens qui jouaient dans la fosse, comme ça se pratiquait avant 1927 et pendant longtemps quand même. Ça a duré un bon moment, y compris à l'étranger, avec en plus un personnage souvent qui après a disparu, qui était le bonimenteur, qui racontait les histoires. Les gens ne savaient pas forcément lire les cartons, donc il fallait aussi interpréter. Enfin bon, c'était tout un monde qu'on a complètement perdu de par l'arrivée du son et ensuite l'arrivée de la télévision. Et donc le problème qu'on a eu ensuite, c'était la qualité de cette image, parce que le traitement argentique de la cadence est complexe. Si on voulait projeter avec un projecteur 24 images par seconde, mais dans des conditions d'une image qui a été tournée à 16 images par seconde, il fallait en rajouter une toutes les trois. Alors on a essayé et on a vu que ce n'était pas possible, c'est-à-dire qu'on crée un rythme dans le rythme. Et donc ça fait un décadençage qui font que les danseurs dansent d'une façon très bizarre. Et ça ne fonctionnait pas tellement. Ensuite, on a essayé d'autres systèmes, mais qui étaient extrêmement chers, qui consistaient à refabriquer 4 images à partir de 3 en les mixant. Donc là, c'était de l'effet spécial, je ne vous dis pas les budgets. Donc on était un petit peu planté sur ce sujet-là.
Voilà. Et ce qui est important de préciser, c'est que non seulement ça recrée un rythme dans la danse, mais que ce n'est plus la retranscription du mouvement, puisque vous rajoutez en fait des faux pas. Puis si vous rajoutez une image, vous rajoutez des faux pas. Et si vous faites une interpolation en effets spéciaux, c'est-à-dire que vous fabriquez des images intermédiaires, de la même manière, en fait, vous fabriquez des faux pas. Donc un danseur ne peut pas danser avec des faux pas.
Donc l'idée à ce moment-là était un peu arrêtée. On ne pouvait pas, avec la technologie actuelle, projeter des images qui avaient été tournées à une autre époque. Et quand on a vu l'arrivée du numérique professionnel avec des conditions de reproduction qui pouvaient s'apparenter à la qualité du 35, on s'est dit, on va essayer autre chose. Donc l'idée a été de scanner chaque image 35 mm en full frame, c'est-à-dire telles qu'elles ont été filmées, avec le cadre complet, y compris avec les défauts éventuels. Ensuite, de les multiplier par 3. Donc ça fait 3 fois 16 égale 48. Et ensuite,
en précisant bien une chose, on les multiplie par 3, mais c'est 3 fois
la même image. 3 fois la même. Et vous allez comprendre pourquoi.
Il n'y a pas de transformation.
Et ensuite, l'idée a été de les projeter avec un projecteur numérique en 2K qui, lui, est programmé pour faire de la stéréoscopie, c'est-à-dire 2 fois 24. Donc de faire une image gauche, une image droite, une image gauche, une image droite. Et au lieu de lui mettre un film stéréoscopique, de lui mettre le film à 16 multiplié par 3, donc 48. Et du coup, on retrouve notre image à la bonne cadence.
Alors il y a quand même une petite astuce, c'est qu'on dit au projecteur que c'est un film stéréoscopique et en même temps, on lui dit que ce n'est pas un film stéréoscopique pour qu'il n'y ait pas de problème d'alternance œil gauche, œil droit. Donc il y a une petite combine de programmation. Mais ce qui était intéressant, c'est que pour la première fois depuis les années 50, on pouvait à nouveau présenter un film 16 images à la cadence réelle de 16 images et donc voir quelqu'un danser dans le rythme de la danse et non dans une espèce de gesticulation trop rapide qui donnait l'impression, dans le cas de la danseuse,
Catherine Essling,
on avait l'impression qu'elle jetait ses bras et ses jambes dans tous les sens et qu'elle était plutôt complètement débile que danseuse.
Est-ce que à ce niveau-là, je peux me permettre une remarque, un commentaire ? Moi, quelle a été ma première réaction ? Parce que malheureusement, là, on dispose que d'un vidéoprojecteur standard. C'est pas avec ce genre d'appareil qu'on peut faire des projections 16 images obturation 3 fois. Pour moi, ça a été vraiment un choc, une prise de conscience, parce que vous réalisez d'un seul coup que pendant des années, des générations, on vous a berné avec du cinéma muet qui était projeté à la mauvaise cadence et que d'un seul coup, en se disant « mais si on reprend en compte ceci, ça veut dire que le cinéma muet, y compris les films de Charlot, en termes d'émotion, vont prendre une autre dimension et on peut réinstaller les œuvres musicales, même voilà. Si c'était ou des bruitages, etc., ou du texte, on peut vraiment le recaler à l'image. » Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce travail, et même Hervé est allé beaucoup plus loin, puisqu'il est allé à re-questionner la façon dont on peut faire fonctionner un Blu-ray, et d'un seul coup, tout le patrimoine du cinéma muet peut reprendre le devant de la scène. Et quand on parle de patrimoine, il y a quand même beaucoup de choses.
Quand vous faites du 16 images par seconde en argentique, vous êtes obligé de projeter l'image, la même image, 3 fois. Mais 3 fois régulièrement, mais vous projetez aussi 3 fois du noir. C'est-à-dire vous faites image, noir, image, noir, image. Je change d'image avec la croix de Malte, donc dans le noir. Donc vous avez finalement 50% de lumière en moins. En numérique, notre avantage, c'est comme on projette sans arrêt, on a 50% de lumière en plus.
Exact.
Presque.
C'est pas tout à fait exact parce que justement, dans les projecteurs à la norme DCI, tu as un obturateur électronique. Mais contrairement aux projecteurs de cette qualité-là, où il n'y a pas.
Mais qui est réglable.
Voilà, mais il y a un obturateur électronique, ce qui change beaucoup de choses. Parce que, justement, on n'a pas exactement la continuité de l'image. On a une rupture qu'on ne voit pas très bien, comme dans une projection 48 images. mais on a quand même cette rupture que l'œil ne voit pas, mais qui existe. Enfin, que l'œil ne voit pas, c'est un peu compliqué.
Bon, j'ai la douloureuse mission, et pourtant moi-même je suis bavard, de gérer le temps d'intervention. On va se tourner vers Jean-Louis, qui a quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, je ne sais pas s'il va nous le montrer, mais il a un gros livre devant lui. Et c'est intéressant de voir comment il travaille, aussi bien au moment de la prise de son qu'au moment de la restauration. Jean-Louis.
En 1977, j'ai été contacté pour travailler sur le film de Joseph Losey, qui avait le projet, avec le directeur de l'opéra Rolf Lübbermann, de faire un film opéra de Don Giovanni de Mozart. Comme pour moi, Don Giovanni de Mozart, c'est un des summums de l'intelligence humaine, aussi bien que musicale, je n'avais plus où me placer. Bon. Je me suis retrouvé, après avoir fait plusieurs dizaines d'années de métier d'ingénieur de son dans le cinéma normal, mais en ayant eu la chance, de par ma culture double, et technique et musicale, d'avoir travaillé préalablement avec des gens qui s'appellent Herbert von Karajan, qui s'appellent Arthur Rubinstein, qui s'appellent Isaac Stern, qui s'appellent Yehudi Menuhin, et j'en passe. Bon, à peu près tous les films musicaux que vous pouvez voir actuellement en télévision, si vous cherchez dans les génériques, vous trouverez mon pauvre nom. Donc je me suis retrouvé avec ce problème, et le producteur... le patron, le vrai patron, c'était Gaumont la firme, qui est Nicolas Sidoux, qui est toujours Nicolas Sidoux, avait son directeur général qui s'appelait Daniel Toscan du Plantier, qui m'a dit du Carme, à l'occasion de ce tournage de film, nous allons exploiter la nouvelle invention des laboratoires Dolby qui s'appelle le Dolby Stereo Surround. Bien monsieur, au garde à vous. Jusque-là, tout va bien. Quand on a préparé le tournage de ce film, et ce que je vais vous raconter n'est pas du tout innocent, moi qui avais une longue expérience de prise de son stéréophonique, tant à la radio qu'au cinéma déjà, je me suis déplacé chez Dolby pour leur demander quel type de modèle de prise de son stéréophonique je pouvais utiliser. Je m'explique. Il existe deux systèmes. Quand on a deux canaux de restitution stéréophonique, ou bien le système MS que tout le monde connaît avec un matrissage, ou bien XY qui est une double cardioïde à 90 degrés. Ces deux procédés n'exploitent que des relations d'intensité et latéralement. Et puis un autre procédé qui s'appelle le AB qui exploite des microphones séparés de plusieurs centimètres, qui au minimum 17 cm avec un angle de 110 degrés pour la base initiale pour des microphones cardioïdes typiques, et qu'à partir de là, la notion d'espace sonore est gérée par de l'intensité, oui, mais surtout du temps. Et qui dit temps dans nos métiers, dit phase. C'est-à-dire qu'il y avait deux procédés un peu contradictoires. Comme je ne connaissais pas dans les détails comment fonctionnait le système de matrissage de M. Dolby, qui consiste à prendre des signaux de 2-3 pistes, au minimum 4 même, de les matricer par un algorithme que je ne connaissais pas et de les ramener à deux pistes complexes qu'on appelle LT-RT sur tous les films analogiques et même numériques que l'on voit maintenant, j'ai été obligé de poser la question. Et la question, avec une réponse tellement anglaise, m'a été, c'est M. Red Dolby lui-même qui m'a répondu, « Monsieur Ducarme, dans notre procédé, vos prises de son, quelles qu'elles soient, seront parfaitement compatibles du moment que c'est une bonne prise de son. Merci, monsieur, bonsoir. » Voilà. Voilà à peu près sur quoi je suis parti. Donc, fort de ces réponses, sachant l'intérêt acoustique de la prise de son de temps du type AB, on a monté tout un système de prise de son pour que tout fonctionne en AB. Bon, alors c'était la première fois qu'on avait un couple AB avec des micros Neumann des KM 84, qui est alimenté à 48 volts, une grande console que j'avais acquise de Nive, une console analogique, parce que quand on filme un opéra, il y a un des parties qui sont strictement des playbacks d'un enregistrement qui a été fait de façon antérieure, et des parties vraies, directes, qui sont de la prise de son cinéma normale, qui sont les parties qu'on appelle musicalement par des récitatifs, c'est-à-dire que les chanteurs se déplacent comme des vrais acteurs, tout en chantant, tout en racontant une histoire, et ils sont à ce moment-là accompagnés non pas d'un orchestre, mais seulement d'un clavecin. Bien. Donc, il a été décidé par Lauzet et Toscan du Plantier que tous les sons de récitatif de l'opéra seraient filmés en direct et enregistrés en direct. Ça représente un peu plus de 40 à 45 minutes sur un film de 3 heures. Donc on est parti, on a fait tout le film dans ces conditions-là, on s'est même payé le luxe. Quand on avait les projections des rushs de la veille dans le cinéma, on filme aujourd'hui et demain soir, en retour de laboratoire, on a les images avec le son synchronisé et on voit ça dans une salle de cinéma. On avait fait équiper un cinéma, on tournait en Italie à Vicenza et à Venise. On avait fait installer dans un cinéma de Vicenza un système de double bande magnétique 35 mm avec deux pistes de son pour gauche et droite pour ce qui concernait les vrais directs et deux pistes mixées de la prise de son originale qui avait été faite quelques mois avant, au mois de juillet précédent, à Paris, à l'église du Liban, qui était commune à, d'ailleurs à la maison CBS qui en a fait des disques. Bon, voilà le point de départ. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que tant qu'on a fabriqué tous les éléments de ce film, tout s'est très, très, très bien passé, tout le monde était heureux. Quand on a commencé à rentrer en salle de mixage, là, on a installé le procédé de M. Dolby. Et on a dit, nous, on a quatre pistes, gauche, milieu, droite, et arrière, surround, mono. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bon, eh bien, on va le... Pour éviter des copies analogiques, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de numérique, bien sûr. Je vous rappelle de ça, 1978-79. Donc, enregistrement sur de la pellicule magnétique 35 mm, qui tourne à 24 images, c'est-à-dire à 45 cm seconde à peu près. Par contre, sur cette piste 35 mm, on peut écrire une, trois ou six pistes, éventuellement, avec des têtes magnétiques spécialisées. Nous, on s'est limité à un bloc de tête, quatre pistes, dont on a utilisé que 1, 2, 3, pas 4, puisque 4, on n'en avait pas besoin, puisque M. Lauzet, dès le départ, nous a dit « Je ne veux pas entendre de son à l'arrière de l'écran, donc il n'y a qu'une gauche, un centre et une droite. » Bien. Jusque-là, tout va bien. Mais quand on a commencé à sortir les enregistrements récitatifs faits par Ducarme avec son bon Dieu de couple AB, là, les malheurs ont commencé. D'un seul coup, le procédé de matrissage, d'encodage de M. Dolby se comporte comme un fou furieux et incontrôlable. Ça veut dire que vous défilez la bande et sans aucune raison, sans avoir touché le moindre potentiomètre, vous avez dans la voix du centre des augmentations parfois supérieures à 15 dB, parfois des déplacements de la voix sur les pistes latérales. Vous n'avez que des catastrophes. Tant et si bien que quand on a mixé ce film, j'étais aidé par Jacques Maumont, Dieu à son âme, qui a dit « Le seul moyen que nous avons, c'est de réduire l'effet stéréophonique de ces originaux en prenant des panne-potes et au lieu de les mettre carrément vraiment gauche-droite sur deux pistes, on ramenait ça plus ou moins vers le centre et on retrouvait un mono qui, lui, marche bien sûr avec monsieur Dolby. » Et le film a été mixé à peu près dans ces conditions-là. Bon, se sont greffées là-dessus des catastrophes à caractère laboratoire. C'était LTC, le laboratoire de l'image. Les originaux magnétiques ont été envoyés à Londres. Il n'y avait que Dolby à Londres qui avait une caméra sonore qui pouvait écrire les pistes sonores LTRT sur le côté. Donc les magnétiques sont partis à Londres. Ils nous ont renvoyé des négatifs que le laboratoire français qui faisait l'image LTC a utilisé pour le mettre à côté des images qu'on avait faites, bien sûr. Et là, nos malheurs ont commencé. Ils ont continué plutôt parce que la finesse de ces pistes, la précision extrême nécessaire entre ces deux simples tracks, c'est deux fois simple élongation pour les gens qui connaissent un peu les pistes de son film, ont besoin d'une extrême précision pour ne pas créer des hors-phases électriques. Et la copie qui est tirée de ce négatif s'est avérée d'une qualité audio épouvantable. Si bien que M. Lauzet a hurlé en disant « J'aurais dû faire mon film en monophonie ». Deuxièmement, un des principaux chanteurs, M. Raimondi, et le directeur de l'opéra, M. Rolf Liebermann, de l'époque, ont envoyé une lettre à la direction de Gaumont, à M. Nicolas Sédoux, en lui disant « Si la qualité du son des copies que nous avons entendues n'est pas modifiée, nous enlevons nos noms des génériques du film ». Et Raimondi a menacé d'un procès les établissements Gaumont pour que le film ne puisse jamais sortir. On avait quand même travaillé pendant 8 à 10 semaines et on avait dépensé 30 millions de dollars de l'époque. Hein, voilà à peu près où on était. Alors naturellement, je ne vous raconte pas l'atmosphère.
Tu voulais nous faire entendre des choses ?
Oui, je vais vous faire entendre deux choses. Alors, j'ai eu, à l'époque de Lauzet, quand on a mixé avec Lauzet, Lauzet est un remarquable cinéaste, mais n'est pas un spécialiste musique. Il ne lisait pas une partition. Il s'est fait beaucoup conseiller, effectivement. Il a toujours donné la primeur à ce qui est pour lui l'essence même de la matière d'un film. C'est, dans son esprit, ce que voit le spectateur à l'écran correspond à ce qu'il doit entendre. Si quelqu'un parle à l'écran, on doit l'entendre en fonction de ce qu'on voit à l'image. C'est une notion tout à fait logique, tout à fait compréhensible, à ceci près que dans l'écriture cinéma, ça n'est pas tout à fait suffisant. Et dans l'écriture musicale, ça l'est encore moins. Et quand on joue avec un auteur qui s'appelle Mozart, à ce moment-là, on entre dans des subtilités de la partition. Or, dans les subtilités de la partition, il y avait des contradictions entre ce que M. Lauzet avait filmé et ce que réclame précisément la partition de Mozart. Et je vous donne un premier exemple. Il s'agit d'une des protagonistes qui s'appelle Donna Elvira, qui en l'occurrence est chantée par Mme Thierry Tekanawa, et qui, dans cet air célébrissime, au début de l'opéra, doit être à peu près tout le temps très présente visuellement sur une scène d'opéra, et musicalement également. Or, M. Lauzet l'a envoyé marcher en chantant au milieu d'une prairie gigantesque, et elle était à 150 mètres de la caméra. Naturellement, quand on lui demande de faire un forte, comme a dit M. Liebermann après, quand on lui demande de faire un forte, elle est à 150 mètres, et quand on lui demande de chanter doucement, elle est plein cadre dans un gros plan à l'écran. Il y a un paradoxe là qui est difficilement conciliable. Donc, pour finir avec ça, je vous montre ça pourquoi. Parce que quand nous avons refait le mixage intégral du film, naturellement, on n'a pas pu oublier ce que je n'ai pas pu oublier. J'étais là au premier mixage en 1979 et je me suis retrouvé au même mixage en 2005, mais avec des éléments remis en rang, si j'ose dire. Et à ce moment-là, on a rétabli dans la mesure du possible, car il y a des limites qu'on n'a pas pu dépasser, mais on a quand même réussi à améliorer un peu. Alors, je vous donne l'exemple typique. Ce que vous allez voir, c'est la version à mi-chemin entre Lauzet 1979 et Ducarme 2005.
Tormento, si ne consolo 1800.
commence. La caméra ne s'est pas arrêtée.
Mais une poupée, là, dans ma vie, là.
Don Giovanni !
Bon, j'arrête. On reprend la lumière. Oui, parce que parmi les plaisirs supplémentaires du tournage, dans l'œuvre de Mozart, il y a des moments où on est en version playback à cause des conditions dans lesquelles on a travaillé avec un orchestre plus des chanteurs, et des moments où on est en playback, c'est-à-dire avec les chanteurs et un clavecin. Et ça s'enchaîne purement et simplement. Et M. Lozet n'a pas fait une coupe dans ces moments-là. Il a laissé la caméra fonctionner, vous en avez une preuve à l'instant. Rien n'a bougé et on est passé dans le playback, on est passé dans le direct. Bon, ça, dans ce sens-là, c'est encore pas trop compliqué. Ce qui est plus vicieux, c'est le contraire. Vous êtes dans la prise de son vrai, en direct, et à un moment donné, et en rythme de musique, en rythme, tap, 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 playback. Alors, à l'époque du numérique, avec un ordinateur ou équivalent, on sait faire. À l'époque, on avait un magnéto Nagra, qui est une machine mécanique, qui marche très bien au demeurant, et puis, il faut l'envoyer juste pile dedans. Alors, il y a eu quelques ratés, de temps en temps, mais enfin, on s'est habitué à savoir le faire fonctionner. Voilà, pour cette partie-là. Après, maintenant, je donne comme point de départ que quand nous avons fait l'enregistrement, avant de tourner le film, cet enregistrement était coproduit par, effectivement, Gaumont, pour faire un film, et CBS, qui voulait en faire un disque noir, des galettes 33 tours. Donc, on a amené en prise de son, dans un lieu célèbre de Paris, qui est l'église du Liban, rue d'Ulm, qui est un lieu d'excellente qualité pour faire des prises de son orchestrales en particulier, on a amené tout l'arsenal, et les techniques de prise d'enregistrement, et on en était à l'époque à la bande magnétique de 2 pouces, tournant à 38 cm secondes, et dans lequel on écrivait 16 pistes. 16 à ce moment-là, pas 24. Donc on a exploité effectivement des machines 16 pistes pour enregistrer. On a distribué les pistes, en l'occurrence, dans la prise de son. Alors, il y a une concurrence entre l'ingénieur du son amené par CBS, qui s'appelle Wolfgang Gulisch, qui est un remarquable ingénieur de son, qui fait ce que le producteur lui demande. Et puis l'autre ingénieur de son, qui s'appelle Ducarme, qui était sous l'égide de M. Lozet. Et puis, quand moi, je demandais... Moi, je voudrais bien un micro de plus ici, ou séparer ça en 2 pistes, et ainsi de suite. Oui, mais je me suis fait répondre, là, encore très anglais, hey, « We are doing a film. You are doing a record. » Voilà, nous faisons un enregistrement, et nous faisons pas une musique de film. Donc, on s'est retrouvé avec quelques impasses. Quand on a voulu récupérer ces pistes de micro, quand on a refait le mixage. Même déjà la première fois, il y a eu des simplifications d'équilibre qui n'étaient pas toujours les meilleures, parce que c'est une fausse prise de son multimicro. Aujourd'hui, quand on dit une prise de son d'orchestre traditionnel multimicro, on parle de 25-30 microphones et autant de pistes éventuellement sur un ordinateur. À l'époque, c'était juste entre les deux. Donc il y avait des compromis, des pistes qui, à un moment où on n'avait pas besoin de telles sections instrumentales, et on remplaçait par autre chose, et ainsi de suite. Enfin bon, tout ça est noté sur la partition, faute de quoi on ne l'aurait jamais retrouvé naturellement. Donc, quand on s'est retrouvé à mixer le film, les vieux démons de M. Lozet sont ressortis. Et dans une autre séquence musicale qu'on appelle le Quatuor, que je vais vous passer, il y a 4 interprètes qui sont les quatre interprètes musicaux de toute harmonie musicale n'importe où, hein, que ce soit celle de Webern, de Wagner ou de Jean-Sébastien Bach, basse, ténor, alto, soprane. Ça, on ne sait pas faire autre chose. Et c'est précisément un quatuor dans lequel la voix de soprane est chantée par Thierry Tekanawa, donc qui est Donna Elvire. La voix d'alto est chantée par Donna Anna, qui est une ancienne fiancée de Don Giovanni. La voix de ténor, c'est Don Ottavio, c'est le nouveau prétendant. Et la voix de basse, c'est Don Giovanni lui-même. Et M. Lauzet, pour des questions d'esthétique dramatique, par rapport au texte de Da Ponte dans cet opéra, a montré à l'image, de façon pratiquement isolée, le personnage de Don Giovanni, qui musicalement n'intervient que comme un remplissage musical, mais qui n'est pas prépondérant, qui n'est pas dominant, car tous ces gens chantent quasiment simultanément les mêmes mots, ou pas du tout d'ailleurs. Donc, le fait de le montrer lui et de vouloir l'entendre prioritairement, puisqu'on le voit à l'écran, est une anomalie, un anachronisme musical. Et ça, c'est répété plusieurs fois, mais je vous ai donné l'exemple le plus grossier, le plus voyant, qui a fait l'objet d'une lettre de Rolf Liebermann à Lauzet, des incendies. Je l'ai raconté à Vanek tout à l'heure. Un jour, pendant qu'on mixait, M. Liebermann, qui était toujours présent au mixage, n'était pas là pour quelques jours. Et il avait envoyé une lettre à M. Lauzet. Et quand j'arrive le matin à 9h au studio de Billancourt, Lauzet, avec la gueule fermée, me jette à la figure une lettre dans une enveloppe. Je lis la lettre. De Rolf Liebermann à Joseph Lauzet, cher ami, je suis absent pour quelques jours, patati patata, je compte sur Jean-Louis Ducarme pour sauvegarder Mozart. Merci, merci l'ambiance, hein, à 9h du matin. Voilà. Alors, naturellement, ça a laissé quelques raideurs, si j'ose dire, hein. Le tout multiplié par les emmerdements des laboratoires Dolby avec leurs codeurs, décodeurs inimaginables. On s'est retrouvé à ce que, 25 ans après, le patron de Gaumont, Nicolas Sédoux, téléphone et me dit « Ducarme, je veux vous voir. Bonsoir, monsieur. On remixe le film de Lauzet. » Ah, merci. Et alors, on reprend tout. Alors, on reprend les bandes 16 pistes. Bon, je vous passe sur les détails, mais les bandes 16 pistes, CBS a été vendu à Sony. Sony qui avait des bandes, CBS qui avait des bandes à Londres, a tout rapatrié à New York, avec d'autres marques qui appartiennent au label de Sony. Et tout ça a été stocké près de New York dans un abri anti-atomique, dans un sous-sol gigantesque. Il y a plus de 120 ou 130 kilomètres de rayonnage qui comprennent toutes les bandes originales qui étaient de CBS et quelques BMG et ainsi de suite qui sont là-dedans. Et parmi cette bande, il y avait les 6 bobines 2 pouces, 16 pistes de Don Giovanni. Alors on a beaucoup ramé et on a fini par les retrouver. Mais ces bandes avaient séjourné dans ce blocos très longtemps et elles étaient physiquement très très détériorées. On a commencé par les jouer. Le magnéto Studer, il s'est arrêté au bout de 10 secondes. Il a arrêté séance tenante. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la magnétite, qui est une pâte qui contient l'oxyde de fer, se sépare du support vinyle. Vous faites de la pâte, mais il n'y a plus de son. Il n'y a plus rien. Alors, je me suis renseigné auprès de Lina, qui m'a dit, on connaît parfaitement, il faut chauffer les bandes. Alors, on a trouvé un spécialiste, qui s'appelle le laboratoire Diam, qui chauffe les bandes, elles sont chauffées entre 40 et 50 degrés, mais pendant 40 heures. On a fait cuire Don Giovanni pendant 40 heures, à 40 et quelques degrés, et effectivement, la magnétique a repris son état original. Mais il a fallu prendre des précautions de Sioux. Les bandes de pouces, elles sont montées sur des roues métalliques, en duralumin. Or, quand vous mettez ce métal, qui contient la bande magnétique lui-même, dans un four, et ceci à 40-50 degrés, le métal capte énormément la chaleur, et beaucoup plus longtemps. Il a une masse résistive beaucoup plus grande que la magnétique elle-même. Donc il a fallu démonter les bobines une à une, enlever les joues, laisser que les magnétiques, je vous en parle. Alors on a fini par tout remettre en ordre, et on s'est retrouvé ensuite au studio Guillaume Tell, qui ont, miracle des miracles, encore un magnéto Studer qui lit des bandes de pouces avec un bloc de tête 16 pistes et un bloc de tête 24 pistes suivant le cas. Mais on a tout relu. Tout ça était naturellement, en matière de bruit de fond, codé en Dolby A, c'est-à-dire une réduction de bruit de fond à 4 bandes. Hein, c'est le procédé habituel de Dolby quand il est en analogique Dolby A. On a tout remis en ordre. C'était très dur. Très dur et éblouissant. Avoir réentendu 25 ans après tout ce qu'on avait fait, c'est très dur. Mais c'est superbe. Voilà. Après, on a mixé. On a eu beaucoup de... Moi, qui n'étais pas un homme du numérique, je suis un vieux de la vieille, mais je ne suis pas un homme du numérique. Quand je me suis retrouvé devant une console SSL qui, à chaque arrêt, il y a 40 potentiomètres qui font clac comme ça sur la figure, je vais vous dire, j'ai été très dur à convaincre. Très, très dur à convaincre. Parce que dans les traditions, quand on mixe en analogique, quand on mixait en analogique, qu'est-ce qu'on faisait ? D'abord, on pouvait écouter la bande. Il y a une tête qui enregistre sur la magnétique et il y a une tête qui est juste après, un petit peu décalée d'une image et demie, je vous l'accorde, mais qui entend le son que vous venez d'écrire. En numérique, ce n'est pas vrai. En numérique, vous entendez ce que vous mixez, adieu va, que ça se met sur le disque dur. Si ça ne se met pas sur le disque dur, vous le verrez quand c'est fini, mais vous ne le verrez pas au fur et à mesure. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que bon, des considérations sur le plan très, très pratique. Quand on est en mixage analogique, vous écoutez ce que vous venez de faire. Et à un moment donné, paf, vous passez sur la nouvelle partie de ce que vous voulez refaire. Bon, vous le faites en appuyant, vous me direz, en numérique, vous faites la même chose. Mais vous n'avez pas la preuve que le joint où vous avez fait l'enchaînement, il est propre. Vous n'avez aucune preuve de ça. Vous n'aurez la preuve que quand vous aurez écouté, vous repartez avant et que vous réécouterez le tout, et ainsi de suite, comme ça. Et ces problèmes-là, tout à fait pratiques, ne sont pas solubles avec le numérique, enfin tout au moins avec la technologie que je peux connaître aujourd'hui. Donc, pour finir sur ces remarques-là, on a remixé le film, ça a duré du temps, parce qu'il a fallu préalablement, avec mon camarade qui est là, il a fallu retrouver non seulement les 16 pistes, on les a retrouvées, mais les séquences de récitatif. Or, à l'époque, Ducarme, avec un flair bizarre, ah oui. Je ne sais pas, j'ai pas d'explication, a gardé chez lui, j'ai gardé chez moi, tous les originaux Nagra de prise de son. J'ai demandé à Loza, est-ce que je peux les garder, monsieur, en souvenir ? Il m'a dit, monsieur, quand j'en aurai besoin, je vous les demande. Oui, monsieur, ils sont toujours chez moi. Et ces bandes Nagra 6,25, tournées à 38 cm, ne se sont pas abîmées du tout. On les relie, on les remet sur le Nagra, ça part au quart de tour. Comme c'est des originaux et qu'on fait du cinéma, il y a 14 take one et ainsi de suite, avec des claps. Mais tous ces claps et tous ces numérotages, je les avais écrits, moi, sur des scripts. Et quand le montage du film se faisait, je notais sur la partition exactement l'endroit où étaient faites les coupures dans la magnétique. Telle prise numéro 3, telle prise numéro 7, et ainsi de suite. Donc, on a repris tous ces éléments avec mon camarade Léon Rousseau. On a tout remis en ordre et on a reconstitué les récitatifs tels qu'ils sont à l'origine et tels qu'ils étaient dans la version analogique Dolby de la première fois. Voilà. S'il y a des questions qui sortent...
On reviendra sur ce clip. Non, malheureusement, Lionel Riesler donc, est en cours de restauration actuellement. Il a une session à laquelle il doit être impérativement présent dans le courant de l'après-midi. Donc, je ne peux pas non plus le lui faire risquer d'être en retard. Hein.
Autre radio, autre culture.